Interview.
107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr. Je suis en compagnie de Harold David, bonjour.
Bonjour.
Et aussi de Yves qui va nous accompagner et tu représenteras le Dauphiné Libéré.
Voilà, je suis l'oreille du Dauphiné Libéré.
Bonjour à toi. Rappelons-le, Harold David, directeur de l'association Festival Est-Ouest Théâtre de Die, et nous allons justement parler aujourd'hui de la saison culturelle, la nouvelle saison, comment dit-on, 2012-2013,
oui, 2013, sachant que là, le programme qui vient juste de sortir, en fait, concerne les 4-5 premiers mois à venir, puisqu'il va de novembre jusqu'à février, puis ensuite il y en a un autre qui sort à partir du mois de mars jusqu'au mois de juin. Voilà, donc on a deux programmes dans la saison.
Avec toujours cette période de pause en été.
Avec toujours cette période de pause en termes d'activité dans le théâtre, mais pas en termes d'activité dans l'association, qui, avec la préparation du Festival Est-Ouest qui est en septembre, enfin juillet-août, sont des mois pas franchement reposants. Voilà.
Alors, avant de se plonger directement dans le. Pour annoncer aux auditeurs la programmation qui est à venir, est-ce que ça va encore, comme l'année précédente, être une alternance entre ce que l'association pourra programmer, ce que d'autres ont eu envie de faire, des résidences comment?
Alors, il y a la programmation du théâtre en tant que telle, donc, qui correspond au choix artistique que l'association fait de manière collective, c'est-à-dire j'y participe bien entendu, mais aussi d'autres de mes collaborateurs et puis les membres du conseil d'administration qui ont un regard là-dessus, autour de plusieurs axes de travail sur lesquels je pourrais revenir tout à l'heure. Et après, il y a tout ce qui est présenté au théâtre, mais qui ne relève pas de la programmation et qui rentre dans le dispositif qu'on a mis en place dès la réouverture du théâtre en 2011, qui est celui des mises à disposition, où on accueille des propositions qui sont faites par des associations du territoire, que ce soit des compagnies, mais aussi des associations souvent à caractère culturel néanmoins, qui viennent présenter des choses au théâtre, mais qu'on ne programme pas. Voilà, c'est une différence qui n'est pas toujours facile à comprendre pour le public, parce que lui, il vient
au théâtre. Et qui n'apparaît pas du coup dans ce programme.
Ça apparaît, quand même. C'est-à-dire qu'il y a la programmation du théâtre qui est proposé dans les premières pages, et puis ensuite il y a des pages qui s'appellent mise à disposition, et là on a la liste avec une présentation, des photos, etc., des différents spectacles qui sont accueillis dans ce cadre-là. Voilà, des mises à disposition. Et l'idée de ces mises à disposition, c'est justement de ne pas être dans un théâtre qui soit exclusivement réservé à la programmation et aux choses qui sont menées en direct par l'association, mais en faire un lieu ouvert où les associations du territoire peuvent se sentir chez elles pour venir aussi à la rencontre de leur public et présenter des spectacles ou des concerts, enfin, voilà, qu'on accueille bien volontiers et qu'on accueille dans le même esprit que les spectacles qui sont effectivement programmés. Parce que,
on peut le rappeler, vous êtes là aussi sur place des fois.
Ah ben on est là tout le temps, c'est pas, c'est pas.
Enfin, que ce soit vous qui programmiez ou pas, vous êtes présent dans le théâtre.
On est tout le temps là, bien sûr, pour accueillir le public, puisque voilà, et les artistes qui sont présents. C'est juste que le mode d'accès au théâtre est différent dans un cas et dans l'autre, où dans un cas il y a une question de choix. On choisit des artistes pour telle et telle raison, selon la ligne entre guillemets sur laquelle nous travaillons. Et puis à côté de ça, on a une mission de service public qui est de mutualiser l'outil théâtre pour des structures du territoire qui en font la demande. Et donc on est aussi présent à leur côté, bien sûr, pour accueillir leur public.
Concrètement, est-ce que vous avez déjà calculé à Est-Ouest votre temps d'occupation?
Oui, tout à fait. On l'a calculé sur 2011, là, mais je pense que ça doit être sensiblement la même chose, voire encore plus nettement marqué sur 2012. Mais sur 2011, en fait, il y avait à peu près 170 jours d'occupation, et il y en avait exactement le même nombre pour la partie programmation que pour la partie mise à disposition, c'est-à-dire 85 jours à peu près chacun. Et donc cette année, en 2012, je pense que c'est plus, puisqu'on a été ouvert sur 12 mois, ce qui n'était pas le cas en 2011, et donc on doit être dans le même type de proportion.
L'autre élément qui apparaît aussi dans ce programme, avant qu'on rentre un petit peu dans le détail, il ne me semble pas que ça ait été l'année dernière, c'est les actions culturelles en milieu scolaire. Alors là, vous avez décidé Alors les montrer c'est... alors que c'est pas ouvert au public a priori.
Oui oui tout à fait, mais parce que c'est enfin dans le précédent programme on avait commencé à les rendre visibles si je puis dire, parce que c'est souvent effectivement la partie immergée de l'iceberg, alors que c'est un travail énorme qui est mené par Isabelle Catois qui est en charge de ce travail en direction des jeunes scolarisés du DIWA de la maternelle jusqu'au BTS, je me rappelle, parce qu'on fait le spectre le plus large possible et qu'on est même en train de travailler à voir sur la toute petite enfance, c'est-à-dire avant la maternelle, donc tout ce qui est en crèche, etc., pour développer des actions en direction des vraiment tout petits. Et effectivement, pour ce qui est du scolaire, c'est une des axes forts qu'on a mis en place dès la réouverture du théâtre, en essayant d'inscrire en fait l'ensemble de ces actions, que ce soit la venue des jeunes sur le temps scolaire à des spectacles, que ce soit des rencontres avec les équipes artistiques invitées, que ce soit des interventions d'écrivains, que ce soit la mise en place d'ateliers, de pratiques artistiques pour ces publics-là. Voilà, vraiment mis l'accent très fort là-dessus, ce qui fait que hors Festival Est-Ouest, donc juste sur l'action du théâtre, par exemple en 2011, il y a eu à peu près 6000 jeunes qui ont participé à des actions proposées par le théâtre de Die sur l'année dernière. Et donc on continue cela parce qu'il y a une vraie demande et puis un partenariat très fort avec l'éducation nationale, que ce soit évidemment la cité scolaire du DIWA pour le collège et le lycée et les classes de BTS donc cette année, mais aussi tout ce qui est primaire et maternelle, et pas seulement à Die. Ça là aussi c'est toujours le paradoxe dans lequel on est, c'est-à-dire qu'on est un théâtre municipal de Die, mais on a quand même vocation, vu la spécificité du territoire, à travailler en dehors de Die intramuros, et donc on a beaucoup d'actions qui sont menées aussi avec les villages du DIWA, notamment là, il y a des spectacles jeunes publics qui vont être en tournée sur Luc en DIWA, sur Châtillon en DIWA. On a un spectacle qui va être présenté au théâtre, l'encyclopédie de la chanson, là, qui va être donc présenté au théâtre, mais qui va partir en tournée aussi à Saint-Nazaire-le-Désert, Luc ou Châtillon, j'ai un petit doute là, sur l'un ou l'autre, plutôt en direction des personnes âgées. Donc vraiment, cette interaction entre le lieu et les murs aussi s'inscrit dans cette diversité de l'offre la plus large sur le territoire. Mais pour revenir à l'éducation nationale, c'est effectivement voilà, le premier public spécifique, comme on l'appelle dans le jargon culturel, sur lequel on a mis notre énergie, et qui devrait se traduire l'année prochaine par une convention de jumelage en fait, qui sera signée normalement, si tout se met bien en place d'un point de vue institutionnel, entre l'association Festival Est-Ouest Théâtre de Die et l'ensemble des établissements scolaires avec lesquels on est en partenariat depuis de nombreuses années.
C'est quoi? C'est une sorte de reconnaissance d'éducation culturelle populaire? Parce que ce que je veux dire, c'est que c'est compliqué quand même de rentrer dans ce processus un peu fermé de l'éducation nationale.
C'est compliqué, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de travail, mais c'est aussi là où, nous semble-t-il, l'avenir du spectacle vivant, entre autres, se joue, parce que les jeunes d'aujourd'hui, s'ils ne sont pas formés à aller voir des spectacles, si c'est pas ils n'ont pas cette habitude-là qui est inscrite,
ce plaisir.
Et ce plaisir-là, surtout, adultes, ils iront pas, ils pousseront pas à la porte d'un théâtre, d'une médiathèque ou d'un lieu culturel quel qu'il soit, qui plus est ils ne transmettront pas ça non plus à leurs enfants, donc c'est pas moi qui ai inventé le terme, hein, ça fait longtemps que c'est développé, mais c'est ce qu'on appelle l'école du spectateur, c'est-à-dire que pour, voilà, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé de manière presque, enfin pas presque, qui ont travaillé de manière scientifique sur ces questions-là, de dire qu'effectivement on devient un spectateur actif qu'à partir du moment où effectivement on a été formé entre guillemets pour
quelques codes,
ça,
quoi.
Et qu'on a eu quelques codes, que on n'est pas face à une barrière symbolique, déjà ne serait-ce que de franchir le lieu culturel dont on se sentirait exclu parce qu'on estime que c'est pas pour soi, voilà. Et donc cette familiarité avec une proposition culturelle, elle est inscrite dans le parcours des gens, mieux c'est pour les spectateurs futurs qu'ils seront. Et donc pour ça il y a deux paramètres, c'est à la fois de fréquenter les lieux, donc c'est le fait de venir voir un spectacle, et puis le deuxième c'est d'être soi-même mis en situation de pratique artistique et culturelle. Et donc nous, on essaye le plus possible, à partir des créations qui sont proposées au théâtre, dans la programmation, et bien de mettre les jeunes dans cette situation-là, à la fois de fréquentation et de pratique artistique et culturelle. Et donc, effectivement, pour revenir à ta remarque sur
l'entrée
institutionnelle, entre guillemets, avec cette convention du jumelage, oui, alors c'est une forme de reconnaissance et c'est surtout, on espère, une manière d'ancrer cette démarche-là sur le territoire de manière pérenne, parce que tout ça est très fragile pour l'instant, donc c'est pas cadré par des conventions, des choses comme ça. Ça reste mobilisé sur la bonne volonté de nous en tant qu'opérateurs culturels et des enseignants et des chefs d'établissement qui sont en place actuellement et qui sont motivés pour développer des choses. Mais s'il n'y a pas un cadre institutionnel qui à un moment donné inscrit ça de manière précise dans les projets d'établissement, etc., et à l'échelle du territoire avec une validation de l'inspection académique, c'est très fragile. Du jour au lendemain, un chef d'établissement nouveau peut arriver et estimer, pour des raisons qui sont peut-être justes, hein, j'en sais rien, mais que tout ça n'a aucune importance et balayer tout un travail qui est
parce que c'est
mené
pas encore,
depuis de longues années. Quoi.
Voilà, puis c'est pas encore inscrit dans les programmes, c'est pas encore vraiment institutionnalisé.
C'est une des priorités du nouveau ministère de la Culture qui a dégagé, j'ai lu ça récemment, 10 millions d'euros pour favoriser l'éducation artistique, donc exactement ce dans quoi on est là, au niveau du type de travail qu'on développe. Donc au moins avec le gouvernement actuel, on sait que ça va dans cette direction-là, mais encore une fois, pour que les choses s'inscrivent dans la durée, il y a rien de mieux que les écrits pour entériner une pratique, en fait. Ça va rien changer dans les faits, mais ça va au moins l'entériner et lui donner la possibilité d'être pérenne, quoi. Voilà. Enfin, tout ça est un peu technique peut-être pour les auditeurs.
Ouais, je ne pense pas. Alors que beaucoup de gens tirent encore à boulet rouge sur l'intermittence du spectacle, par exemple, ça tout le monde le sait, et ben, c'est bien de se dire, quand on va attaquer tôt, et ben, on n'aura plus envie de leur tirer à boulet rouge.
Aussi.
Si depuis l'enfance on en a besoin
aussi,
de notre spectacle. Tu t'hésites pas si t'as des questions, hein.
Oui, la question qui me vient à l'esprit, c'est en fait ça devient plus qu'un théâtre, ça devient un complexe culturel pluridisciplinaire.
Ça dépend ce qu'on entend par théâtre. Il y a le lieu théâtre qui est le bâtiment que tout le monde, enfin tous ceux qui viennent en tout cas connaissent ou de l'extérieur. Et après il y a un projet qui est développé à partir de ce lieu fixe. Donc le projet
pour aller juste un tout petit peu plus loin avec la question d'Yves, est-ce que c'est pas le fonctionnement propre d'Est-Ouest et les projets que vous avez déjà pris en tant qu'association qui sont en train de modifier un petit peu ou de doper l'activité théâtre pur telle que je pense devait le penser la mairie à l'époque ou...
Mais non, pas du tout, c'est ce que beaucoup de gens pensent et entendre, mais je rappelle la façon, enfin l'histoire, très brièvement. La ville a lancé un appel d'offres donc pour trouver un délégataire il y a 3 ans de cela, donc à l'automne 2009, donc un appel d'offres avec un cahier des charges qui était ce qu'il était à l'époque. Ce cahier des charges a été ensuite remanié, pour être affiné au plus juste des réalités possibles dans le cadre d'une délégation de services publics. Et à la suite de ça, des candidats dont nous avons répondu en proposant un projet. Et donc, tout ce que je viens d'exprimer sur l'action culturelle, par exemple, etc., tout cela est inscrit dans un projet de 40 pages
que j'ai
rédigé à l'époque et c'est sur cette base-là qu'effectivement, la ville a fait le choix de son délégataire. Et donc, nous, derrière, on a mis en œuvre ce pourquoi on avait été choisi.
Oui, mais c'est ce projet-là, c'est bien le vôtre. Pas du tout une demande.
Il y avait des éléments.
Ils ont aimé le vôtre, mais...
Pas seulement, c'est que ce projet-là, il correspondait effectivement aux grandes lignes du cahier des charges. Et donc, c'était une réponse à ce cahier des charges. Il y aurait eu un autre cahier des charges, on n'aurait pas forcément fait le même projet.
La mairie d'Y avait déjà, par exemple, cette idée, ce désir qu'il y ait des interactions avec le public scolaire, par exemple.
Oui, tout à fait. Ça faisait partie du cahier des charges. Après, la réponse qu'on a faite, c'est une réponse structurée, effectivement. Parce qu'on peut... il y a mille façons d'envisager effectivement de développer des actions avec le milieu scolaire. Donc voilà, nous, c'est vrai que fort de l'expérience qu'on a sur cet aspect-là des choses, on a mis en place une démarche bien spécifique qui effectivement porteur d'une politique d'éducation artistique sur ce territoire. Et, parce qu'on estime que c'est du rôle d'un équipement structurant comme le théâtre de Die que d'aller dans cette direction-là. Et donc tout ça, c'était effectivement dans le projet initial, en fait. Et donc on n'a fait que le mettre en œuvre depuis 3 ans.
si.
Reprenons maintenant la programmation propre du théâtre, donc des 5 prochains mois, puisque ce sont les programmes qui sont diffusés avec un espèce de patchwork de, comment dit-on, de différentes photos. C'est un peu bulleux, savonneux, on se croirait dans un bain. Ça, c'est la pochette. Hein.
Sur la couverture.
Oui,
la oui, couverture. Oui, c'est une image recomposée qui fois sur une multitude, un chemin de galets.
Oui, ça fait suivre, un peu galet aussi. Ouais.
Voilà, enfin, il y a de multiples interprétations possibles laissées à l'imagination de chacun.
Programme donc, évidemment, comme d'habitude, distribué un peu partout dans le Diwa. Est-ce que tu voudrais nous rentrer dans le détail d'un certain nombre de choses
Oui, bah, je peux peut-être présenter un peu les axes qui ont été les nôtres pour
construire
cette programmation.
Tu l'as dit en introduction, il y a eu un choix quand même, une sorte de... il y a un thème particulier.
Tous les ans, sur toutes les saisons, il y a eu des choix qu'on n'a pas forcément affirmé de manière extrêmement claire, mais maintenant on va le faire, parce que ça semble être attendu. Et donc, en fait, j'ai toujours eu deux principes qui ont présidé l'organisation et la structuration de la programmation. Le premier, c'est à chaque fois d'essayer sur un semestre de mettre en avant une discipline particulière du spectacle vivant. Donc là, pour cette première partie de saison, c'est la marionnette qu'on a choisi de mettre en avant, parce qu'il y a vraiment plein de formes très très dynamiques et pleines d'inventions, en fait, qui, depuis un certain temps déjà, mais qui, le grand public ne le sait pas forcément, renouveler complètement
la marionnette. Tout le monde a l'image de Guignol.
Voilà, c'est ça. Alors, ça existe toujours, cette marionnette-là, mais c'est loin d'être la seule forme d'expression. Et donc, du coup, on a choisi 3 spectacles très, très différents. Un, dans une forme de marionnette relativement classique, en tout cas pas dans la forme des marionnettes, parce que le travail que fait la compagnie Émilie Valentin, donc qui va présenter en ouverture de la saison Les Fourberies de Scapin, donc une version en solo de la célèbre pièce de Molière. Donc ce sont des marionnettes grandeur, quasiment grandeur nature, enfin à taille humaine, et qui sont manipulées par un seul comédien qui joue le rôle de Scapin, et c'est pour ça que la pièce est sous-titrée Les Fourberies de Scapin ou Un Scapin Manipulateur, puisque c'est double sens à la fois de celui qui manipule les marionnettes et qui en même temps joue le rôle du manipulateur qui effectivement manipule l'ensemble des personnages au propre comme au figuré dans la célèbre
pièce. Si on se rappelle
le
récit.
Le récit de la pièce de Molière. C'est-à-dire qu'il les fourberies, hein, c'est ça. Donc il joue des tours à tout le monde. Donc il manipule forcément les gens pour arriver à ses fins. Voilà, il y a cette vision-là de la marionnette par cette compagnie qui est reconnue, qui est basée au Teil maintenant depuis quelques années, après avoir été longtemps, 3 mois, ça allait passer de l'autre côté du Rhône. Et puis... début décembre, donc, on va accueillir un autre spectacle qui, lui aussi, est familial comme Les Fourberies de Scapin, c'est-à-dire que ça peut être vu par des enfants, mais complètement par des adultes, qui s'appelle Super Fiston, mais là, ça peut être vu aussi par des tout petits enfants, puisque c'est à partir de 3 ans, avec la compagnie du Jabron Rouge, et qui, elle, a une approche tout à fait différente de celle de la compagnie Émilie Valentin, avec un travail très fin, très, très inventif sur la notion de castelet, c'est-à-dire les boîtes à partir desquelles les marionnettes sont manipulées, et qui fait vraiment un travail esthétique remarquable, et qui va donc être présenté au théâtre de Die, et puis partir, donc, comme je disais tout à l'heure, en tournée dans différents villages du territoire. Et enfin, le troisième spectacle qu'on va pas accueillir du coup, mais où on va emmener les habitants de Die et du Diwa et les spectateurs du théâtre le voir, c'est donc un spectacle qui va être présenté à la Comédie de Valence, donc au mois de février prochain, le 21 février, qui s'appelle Le Gore, où là on est dans une approche très contemporaine de la marionnette, avec la compagnie Joanie Bert, qui, à partir d'un texte d'un auteur anglais qui s'appelle Patrick McCabe, raconte une histoire assez sombre, assez dure, etc., d'un enfant qui, une enfance justement un peu traumatisante, et il fait une utilisation de la marionnette très très particulière, avec on est à la fois dans la marionnette, dans le théâtre d'objets, avec des choses hyper réalistes qui sont manipulés comme des morceaux de viande, des choses comme ça. Enfin voilà, bon, c'est un univers assez remuant, et enfin au sens émotionnel du terme, et
réaliste
et réaliste aussi d'une certaine manière.
Un arrêt quelques instants sur cette notion hors les murs, ce que vous avez appelé hors les murs, c'est-à-dire dans le cadre du théâtre, voire des adhérents qui le sont ou d'un public
pas,
extérieur.
Pas les adhérents, enfin, vraiment c'est ouvert au tout public.
Vous organisez une sortie vraiment voilà. Prise en charge du,
tout à fait,
du ouais. Déplacement.
C'est-à-dire que les tarifs qui sont indiqués sont des tarifs plus élevés que ce qu'on fait au théâtre, mais ce sont les tarifs de la Comédie de Valence. Ce ne sont pas les nôtres. En l'occurrence, effectivement, on prend en charge, enfin, c'est des tarifs nets, c'est-à-dire il n'y a pas de frais de transport qui sont rajoutés effectivement à ces tarifs-là. C'est vraiment la billetterie de la Comédie de Valence qui est organisée comme ça. Et donc, on prend en charge effectivement le bus et puis le chauffeur pour emmener les gens effectivement à Valence et les ramener ensuite le soir.
L'idée, c'est quoi là ? C'est une bonne occasion parce que ça collait avec le thème que vous aviez choisi sur le début du semestre ? Ou alors,
c'est
un vrai désir de faire sortir les gens ?
C'est un vrai désir de faire sortir les gens, d'être dans la circulation des publics, parce qu'en fait, là, la Comédie de Valence, on a mis en place un partenariat un peu sur le long cours tout au long de l'année, puisqu'il y a plusieurs rendez-vous comme ça qui sont fixés et qui vont dans les deux sens, qui sont sur la notion de justement d'aller-retour, quoi. C'est-à-dire que
eux descendraient aussi.
Voilà, tout à fait. D'accord. Sur deux spectacles, effectivement, au niveau des adhérents de la Comédie de Valence ou des abonnés, je ne sais plus exactement. Enfin bref, c'est prévu qu'ils soient mobilisés pour venir voir des spectacles. On organise avec eux un stage qu'on co-organise ensemble, qui aura lieu au mois de décembre, un stage de théâtre avec le metteur en scène Éric Massé, qui va avoir présenté la veille donc, du stage le spectacle Les Bonnes, qui est une production justement de la Comédie de Valence et qu'on accueille aussi au théâtre. Et puis il y a un autre spectacle, le Misanthrope de Molière, qu'on ira voir au mois de mars ou avril, je ne me souviens plus très bien, enfin dans la deuxième partie de saison. Et donc l'idée, c'est vraiment d'être dans la circulation des publics, c'est aussi de faire en sorte qu'on puisse proposer au public du territoire d'aller voir des spectacles qu'on n'a pas la capacité d'accueillir, alors que ce soit d'un point de vue financier, que ce soit technique, ou c'est des partenariats qu'on est en train d'essayer de développer aussi avec d'autres lieux. On est en discussion notamment avec le Train Théâtre, pour aussi mettre en place ce type de choses-là qui viennent enrichir la programmation. Alors, ça ne se substitue pas, évidemment, au fait d'accueillir dans le lieu, mais disons que c'est complémentaire à la démarche. Si on faisait que des sorties toute l'année, ça serait un peu...
Vous ne seriez plus un théâtre.
On ne serait plus un théâtre, mais on serait organisateur, on serait tour opérateur.
Voilà.
Là, il s'agit de faire ça de manière ponctuelle, quand ça vient en cohérence avec effectivement la démarche qui était la nôtre. Et c'est vrai qu'il y avait cette proposition-là qui tombé au mois de février et que par rapport à ce travail qu'on souhaitait faire autour de la marionnette, ça nous semblait une bonne occasion.
Après la marionnette, qui est-il ?
Alors, donc, les autres axes de travail là, qui sont plus thématiques, ça a été de travailler sur deux thèmes qui fonctionnent ensemble. L'un qui est la question de la mémoire et l'autre qui est sur la question de la transmission. Ça fait un peu abstrait comme ça, mais concrètement, c'était d'avoir une réflexion sur justement comment la mémoire se transmet, comment on peut se réapproprier effectivement la mémoire du passé, comment elle nous parvient, sous quelle forme, etc. Et également la question de la transmission au sein du cercle familial, en fait. Ça nous semblait intéressant d'explorer cette problématique-là, parce que ça fait partie des réalités sociétales, nous semble-t-il, aujourd'hui. Donc on a fait des choix de spectacles qui vont un peu dans ce sens-là pour répondre à ces deux thématiques. Donc si je commence avec la mémoire, par exemple, on a un spectacle qui s'appelle « Il se passe quelque chose de bizarre avec les rêves » qui va être présenté au mois de février, qui est une création de la compagnie Golem Théâtre qui est basée dans le Trièves, au cœur de cette problématique de la mémoire, puisque le sujet du spectacle et le projet même du spectacle, ça a été que cette compagnie a collecté en fait la parole d'anciens enfants de la maison d'Izieux, qui est ce lieu qui est devenu un lieu de mémoire maintenant justement aujourd'hui dans l'Ain, mais qui pendant la Seconde Guerre mondiale a accueilli beaucoup d'enfants juifs qui étaient orphelins parce que leurs parents ou leur famille avaient été déportés et qui ont été pour plus d'une centaine à passer dans cette maison. Il y en a une partie malheureusement qui a connu une fin tragique puisque suite à des dénonciations ils ont été fusillés, mais donc il y en a quand même certains qui ont vécu quelques années là-bas et avant la tragédie finale et qui donc sont encore vivants aujourd'hui. Donc maintenant ce ne sont plus des enfants, bien évidemment, ce sont des personnes d'un certain âge. Donc ils ont fait ce travail de collecte de mémoire pour créer un spectacle à partir de cette parole-là. Et du coup, ce spectacle nous invite à nous, spectateurs, voir comment on reçoit cette mémoire vivante, en l'occurrence, comment le spectacle peut se faire, comment la transmission orale peut se faire, comment la transmission émotionnelle aussi peut se faire, et quelles traces aujourd'hui on peut avoir de ce type d'événement et d'histoire-là, qui est à la fois de la petite histoire et en même temps complètement inscrite dans l'histoire avec un grand H. Donc,
gardes le nom de spectacle parce que c'est pas du récit, c'est vraiment c'est une pièce de théâtre, par exemple une comédie dramatique, quelque chose comme ça.
C'est plus de l'ordre du théâtre récit quand même. C'est-à-dire cette parole-là qui a été organisée, on va dire, structurée,
un peu mise en scène, mais à peine. Quoi.
Non, elle est réellement mise en scène, mais il n'y a pas une histoire au sens avec une narration, un début, une fin. C'est plus des éclats de vie qui sont qui créent des instantanés comme ça de théâtre dans l'échange entre deux comédiens et puis les musiciens et chanteurs qui les accompagnent. Et donc ça crée une forme comme ça un peu hybride, mais qui reste à mon sens complètement de l'ordre du théâtre. Quoi. Voilà, parce qu'on est dans l'incarnation.
Des possibles du théâtre, bien sûr.
Des possibles du théâtre, voilà, tout à fait. On a mis en place aussi une exposition qui sera présentée à la médiathèque d'Ivoire-Vercors pendant une quinzaine de jours, qui va présenter des photos justement de la maison d'Isieux. Et là aussi bien auprès du tout public que du grand public, un certain nombre de rencontres, d'ateliers pédagogiques, etc., pour sensibiliser justement les publics à cette problématique-là, enfin, à ce moment de l'histoire française. Et donc, il y a tout un travail autour du spectacle qui est mené auprès de différents publics. Et sur les questions de la famille, il y a plusieurs spectacles qui rentrent un peu là-dedans. Deux dont on a déjà parlé, parce que les Fourberies de Scapin, on est en plein dans une histoire familiale, avec Superfiston également.
Superfiston.
Avec Keith Richard, on l'a également, même si là, il y a avec les bonnes aussi. Et puis, je vais peut-être partir de là pour parler de ces différents spectacles-là. Un autre spectacle qu'on a accueilli au mois de janvier qui s'appelle Oh Boy, qui est tiré d'un livre de Mario de Muraille, qui est un auteur de littérature jeunesse assez réputé. Et donc voilà, ce sont tous des spectacles où la question du cercle familial, du secret, de ce qu'on se dit, ce qu'on se dit pas, qu'est-ce qui peut se révéler ou pas, etc., et de relations enfants-parents, enfin voilà, tout ça est vraiment brassé dans ces différents spectacles, et notamment dans Oh Boy, qui est peut-être le plus sociétal de tous, qui est une sorte de comédie dramatique sous forme de solo de comédiens, où l'histoire c'est celle de Barthélémy, donc un jeune garçon, 26 ans, on peut dire qu'il est jeune encore, qui tout d'un coup se retrouve par un peu le fait du hasard chargé de famille, où lui tombe dessus un demi-frère, une demi-sœur, etc. Donc il est obligé de devenir responsable en quelque sorte, puisque cette charge lui tombe dessus. Et du coup, c'est un spectacle qui est vraiment plein d'émotions, avec une histoire toute simple, très, très humaine, mais qui met en perspective justement la façon dont on devient adulte finalement, et comment les circonstances de la vie obligent l'individu à grandir, à prendre des responsabilités qu'il ne pensait pas être capable de prendre, et y trouver même du plaisir et du sens à son existence. Et en plus, c'est un des aspects du texte, mais qui est intéressant aussi, parce que pour le coup, là, on est en plein dans l'actualité de société. Il se trouve que le héros est homosexuel, donc il y a toute une réflexion sur l'homoparentalité, etc. etc. Donc ça résonne bien avec quelques petites chose qui agite la conscience.
Oui, tiens, ça c'est vrai. Alors, on pourrait être donc homosexuel, voire reconnu, et puis tout d'un coup, on pourrait devenir tutélaire d'un certain nombre d'enfants. Là, ça poserait plus de problème à personne, je pense. Hein.
Voilà, c'est ça. Oui.
Ouais. Là, quand on est obligé par un juge. Voilà. Voilà.
mais voilà, il y a les bonnes qui sont aussi autour de cette problématique-là. Bon, c'est peut-être le texte le plus connu de Jean Genet, donc je vais peut-être pas m'attarder dessus. C'est une relecture assez intéressante que fait Éric Massé en utilisant la vidéo, la musique en live, etc., la musique électronique et tout, d'un texte qui est presque devenu un classique aujourd'hui de Jean Genet, qui s'inspire du fait divers des sœurs Papin, là, qui avaient flingué son ménagement, leur maîtresse et sa fille.
Voilà.
Et puis, je parlais peut-être un petit peu de Keith Richard aussi, qui est un spectacle qu'on va accueillir le 8 décembre, qui est donc inspiré d'après Richard III et qui est né de cette idée un peu folle de Mark City, qui est un comédien assez connu, enfin que les gens ont sûrement vu à la télé ou au cinéma, parce qu'il fait régulièrement des apparitions sur ces médias-là. et qui donc voulait, enfin, s'est mis en tête de jouer Richard III, la pièce de Shakespeare où il y a, je sais plus, 25 ou 40 ou 30 personnages, de la jouer tout seul. Voilà. Et du coup, il a créé une situation dramatique où il joue le rôle d'un comédien qui essaye de répéter sous la direction de son metteur en scène justement cette fameuse adaptation, et ce défi, voilà. Bon, comme ça se passe souvent entre des metteurs en scène un peu caractériels et des comédiens pas faciles à gérer, il y a un clash et donc la metteur en scène se barre, le comédien laisse tomber l'affaire et reste le pauvre Richard III qui a commencé à prendre vie et qui n'a pas l'intention d'en rester là, qui aimerait bien que son histoire continue. Et donc voilà, on bascule dans une espèce de parabole comme ça où finalement le personnage prend le dessus sur le comédien et voilà, et veut avoir sa vie jusqu'au bout de personnage et vivre son destin de Richard III jusqu'au bout. Donc il va forcer le comédien à reprendre du service et à l'incarner définitivement. Et donc, au-delà de toute l'histoire, l'imbroglio de l'histoire familiale qui est celle de Richard III, il y a une réflexion et une mise en abîme sur ce que c'est que le métier d'acteur, quelles sont les relations entre un comédien et puis le personnage qu'il va créer, où sont les limites entre la fiction et le réel. Enfin, voilà, il y a toutes ces problématiques-là. Et c'est surtout aussi une performance d'acteur assez incroyable parce qu'il joue vraiment tous les personnages de Richard III et on est embarqué dans quelque chose qui a à voir avec une forme de folie quand même qui est assez shakespearienne, je dois dire. Voilà pour ce spectacle-là. Et puis les deux autres spectacles, enfin trois autres spectacles dont on n'a pas encore parlé, qui correspondent à d'autres genres du spectacle vivant, puisqu'on va avoir du cirque au mois de janvier avec la compagnie Kirkas Gaia, qui est une compagnie qui est implantée dans le Diwa, qui a été en résidence déjà au mois d'octobre, qui va revenir au mois de janvier, qui va présenter sa prochaine création Nothing But. Donc je ne peux pas en dire grand-chose, parce que c'est pour le coup une création et que pour l'instant, là, elle a fait qu'une dizaine de jours de résidence.
Et puis qu'elle s'appelle Rien Mais, donc ça va ?
Oui, voilà, en même temps. Voilà, enfin, c'est en tout cas un travail qui est fait à la corde, puisque c'est la spécialité de Sandrine Duquesne, qui va créer voilà, un certain nombre d'images autour de ce presque rien dont tu parlais tout à l'heure, qui sera à découvrir donc le 25 janvier. Et puis sinon, en musique, on va avoir deux propositions. Tout début février avec les Doigts de l'Homme en fait, qui sont assez connus du grand public, qui font du jazz manouche et qui sortent un nouvel album au mois de janvier et donc qu'on va avoir la primeur de recevoir juste pour la sortie de leur album.
Très bien dit. C'est donc le concert d'ouverture d'une prochaine tournée qui se passe ici.
Tout à fait, voilà. Ah,
super.
Et c'était un souhait de leur part en plus, parce que je ne suis pas allé les chercher là pour le coup. Je les connaissais depuis un moment, mais du coup, il y a eu cette envie de leur manager de se dire ce serait bien qu'on démarre en milieu rural, etc. Cette tournée qui va effectivement les emmener assez loin, parce qu'ils ont des dates à l'international. Mmh. Enfin,
ouais, ils commencent à être bien connus.
Bien connus, ouais, donc j'espère qu'on aura l'occasion de les entendre sur l'antenne de RDIWA.
Oui, on pourrait on en passe un morceau, allez, hop.
Thank you. puis une autre proposition là, qui est plus autour de la chanson, avec un spectacle qui s'appelle donc l'Encyclopédie de la chanson. Donc il n'a rien d'universitaire, c'est vraiment un clin d'œil au fait que l'auteur principal de ce spectacle, Jean-Pierre Tutin, est une sorte de jukebox vivant de la chanson française d'une certaine époque, je le précise, c'est plutôt des années 20 à voilà, années ouais. 60, hein, voilà, c'est ça son répertoire. Mais
que peut-être vraiment... certaines personnes ont quand même pu apprécier cet été, puisqu'il est passé par ici, sur
oui,
l'antenne
oui,
aussi.
Tout à fait. Et qui fonctionne vraiment auprès de tous les publics, parce qu'il a une manière, enfin, il a un tel amour de la chanson qu'il sait le transmettre à toutes les générations.
Et puis il adapte vraiment, il se laisse couler aussi dans l'ambiance, enfin,
fait,
rajouter
oui,
des
très,
phrases au milieu.
Actif. Et là, c'est un peu, enfin, c'est quand il était venu précédemment, c'était plus pour animer des cabarets ou des après-soirées. Là, c'est vraiment un spectacle où, complètement construit, écrit, avec un contrebassiste et puis une chanteuse qui vient faire des duos ponctuellement avec lui. Et c'est un peu, comment dirais-je, pas testamentaire, mais disons que c'est une... il revient sur voilà, 70 ans de vie passée au service et,
de la
musique et de la chanson. Et donc, voilà, c'est un spectacle qui est très émouvant parce que c'est aussi la vie d'un homme au travers de la chanson qui se raconte justement en chanson avec des chansons connues et puis d'autres moins connues, mais il n'a pas fait les choix les plus mauvais du répertoire de la chanson française. Et c'est vraiment un spectacle qui est plein d'émotions, extrêmement... extrêmement touchant.
Yves, question ?
Une question, ça serait peut-être en dehors de cette programmation, c'est par rapport à une cohésion, une cohérence locale, à savoir s'il y avait moyen, par exemple, de justement que les dates des événements culturels locaux puissent ne pas se coïncider au niveau des dates, par exemple. Ou
oui,
alors
comme, le
une
soir
meilleure information,
de l'ouverture,
un échange d'informations.
De l'ouverture du théâtre, où effectivement, il y a la nouvelle création du Cirque Trottola qui a lieu le même
voilà,
jour.
C'est
par
ça.
Exemple.
C'est ballot. Bah, on s'en est parlé avec Bonaventure. Et bon, voilà, bah, c'est juste qu'il y a un manque de coordination, mais ça, je ne vais pas. Enfin, je veux bien m'étendre sur le sujet, mais il y a un vrai besoin de coordination voilà, au niveau
qui devrait être
culturel.
Fait par quelqu'un d'extérieur, tu penses ?
Je n'en sais rien.
Ouais.
Ce que je pense, c'est qu'il devrait être fait et qu'aujourd'hui, il n'est pas fait. Qu'il se trouve que dans des temps pas si lointains, nous avions proposé effectivement de mettre en œuvre cette coordination, entre autres sur cet aspect-là, que ça a suscité une levée de bouclier assez incompréhensible de notre point de vue, de la part d'un certain nombre d'acteurs culturels. Bon voilà, on peut revenir sur ces épisodes-là, ça n'a aucun problème pour en parler, mais toujours est-il que effectivement, ce besoin en coordination, il existe, parce que c'est ce qu'on s'est dit avec Bonaventure pour le Cirque Trottola.
Mais rassurons-nous, ça arrive à un paquet d'associations. Enfin, nous,
oui, mais
c'est tout le temps dans la même situation.
Non, mais c'est ça, je ne jette pas la pierre, c'est juste une notion de politique de cohésion au niveau local.
Lançons un message à quelqu'un
voilà,
qui nous écoute.
Quelqu'un qui puisse gérer justement que tout puisse être vu par un maximum de public.
Oui, il y a une structuration. Mais ça, moi, je l'ai fait.
Après, vous avez des impératifs certainement dus aussi aux comédiens qui ont des
mais
tournées.
Pas seulement. Enfin, je veux dire, là, par exemple, sur l'histoire avec Trottola, on aurait très bien pu. Enfin, on se serait coordonné, on pouvait très bien s'organiser autrement.
Oui.
Nous, enfin, qu'on fasse l'ouverture le vendredi, qu'on la fasse le jeudi ou même la semaine d'après. Enfin, je veux dire, tout était possible. Le tout, c'est effectivement qu'il y ait des espaces de concertation pour que justement cette coordination et donc cette cohésion soit faite. Mais ça, c'est possible. Moi, je l'ai mis en place sur un autre pays que l'Iowa, avec des associations, même contexte, au milieu rural, pas très loin d'ici, dans le sud-est de la Drôme. Voilà, ça n'a pas été simple au début, mais du coup, maintenant, depuis 5 ans, il y a une plaquette qui sort, qui est financée par la communauté de communes, qui sort avec justement l'ensemble de l'offre qui est faite sur quasiment toute, 8 mois de l'année.
Sans chevauchage.
Alors ça arrive qu'il y en ait, parce qu'il y a des fois il n'y a effectivement pas d'autre solution, mais en tout cas en ayant fait tout ce qu'il fallait pour que si ça arrive, c'est que vraiment c'est parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Donc ce besoin-là, il est effectivement récurrent sur le territoire. Toutes les associations s'en plaignent. Sauf que la réalité, c'est qu'il faut qu'effectivement quelqu'un prenne ça en charge. Qu'actuellement, c'est pas la ville de Die qui va se mêler de ça, puisque pour que ça ait du sens, il faut que ce soit fait au niveau du territoire. que je sache, la communauté de communes n'a pas la compétence culturelle, donc elle ne va pas aller sur ce terrain-là non plus. Et donc, s'il n'y a pas des acteurs ou des opérateurs culturels comme nous ou d'autres, mais pour l'instant, je n'ai pas entendu grand monde, à part nous,
se manifester pour le faire,
voilà. Bah, juste, il ne se passe rien. Donc, on reste dans un statu quo qui fait qu'effectivement, ce type de chevauchement et de concurrence absurde se met en place. Parce que c'est vrai que les gens n'ont pas un budget illimité. Et puis, voilà. Donc,
c'est juste un manque d'information, voilà, qui ne circule pas entre les structures existantes.
Oui, mais parce que, si, encore une fois, voilà, s'il n'y a pas de coordination entre ces structures sur cet aspect-là des choses, eh ben, forcément, on ne communique pas, on a tous la tête dans le guidon. Oui. On ne va pas, à chaque fois qu'on pose une date sur un calendrier, prendre notre téléphone pour appeler les 45 ou 50 acteurs culturels du territoire susceptibles de mettre des choses en place. Et nous, on ne le fait pas, et je comprends tout à fait que les autres ne le fassent pas non plus et qu'ils nous appellent pas. C'est que tant qu'il n'y a pas effectivement un espace de coordination, on peut se mettre à plat, enfin tout autour de la table.
Pourquoi pas même un site internet, quelque chose, une espèce de gros agenda.
Mais c'est pareil, mais même
un milliard de propositions.
Même ça, il faut le gérer. C'est du boulot, c'est du temps, etc. Et que donc, s'il n'y a pas une volonté de coordination, les choses restent entre guillemets anarchiques, au sens où chacun fait son truc dans son coin. Et c'est, encore une fois, je ne jette la pierre à personne, c'est normal, quoi, vu le masse de boulot qu'on a tous les uns et les autres, si on n'est pas dans un cadre où on va pouvoir se poser avec nos agendas en début de saison ou à un moment X pour essayer de confronter tout ça et de structurer ça au mieux, ce genre de choses a lieu et se reproduit.
Et puis là, on parle de deux compagnies qui doivent très probablement pouvoir faire un planning relativement fidèle de ce qu'elles projettent dans l'année, ce qui n'est absolument pas le cas de tout un tas de plus petites associations, dont moi je fais par exemple partie, et qui seraient bien incapables de vous fournir deux semaines à l'avance ce qu'elles vont faire dans les deux mois qui suivent.
Oui, voilà, mais parce qu'il y a quand même des gens qui sont capables un certain nombre d'acteurs qui sont capables de se projeter un tout petit peu dans le temps. Je pense que, là je reprends l'exemple de Trotella, je pense qu'il n'a pas décidé, ils n'ont pas décidé la semaine dernière de faire leur création ce jour-là.
Et
nous non plus. Donc je pense que s'il y a déjà des choses qui sont structurées et qui permettent d'avoir une lisibilité, ça fait un socle sur lequel justement des associations qui ne sont pas en capacité d'anticiper peuvent s'appuyer là-dessus, regarder ce qu'il y a et se dire il y a déjà trois trucs à ce moment-là, on va plutôt se mettre sur la veille ou le lendemain. Donc ce serait déjà une base, mais même ça n'existe pas.
Eh bien, on va terminer là-dessus. Merci Harold de nous avoir présenté cette saison culturelle 2012-2013 qui commence, les cinq premiers mois du moins, au Théâtre de Die. Mmh. Tu peux rappeler quand même les numéros de téléphone et adresse internet, tout ça, où on vous trouve.
Alors, sur le site internet, donc, où il y a toute la programmation détaillée, avec une nouveauté, je ne sais pas si elle sera très usitée dans le DIWA, mais quand même, je suis fier d'avoir parvenu à le faire de mes longs chemins, parce qu'on a réussi à mettre en place une billetterie en ligne sur le site internet. Et donc
ça pour pré-réserver du coup, ça permet de faire
des réservations en ligne, de régler en ligne directement, etc. Donc c'est moi qui ai réussi à le faire, je suis très fier de moi et de mes talents de webmaster que je ne soupçonnais pas justement. Et donc l'adresse du site internet, c'est www.theatre-de-die.com, et pour les réservations pour la billetterie, c'est au 04 26 58 80 35, et il y a un mail qui est billetterie@est-ouest.com.
Eh bien, merci à toi.
Merci.
Et merci Yves.
Merci.
De nous avoir accompagnés. Et puis rendez-vous donc dans 5 mois pour la suite.
J'espère qu'on a peut-être l'occasion de faire quelques.
Non, mais en tout cas, pour la suite du programme.
Pour la suite du programme, sur ce qui va se passer là dans les mois qui viennent.
Hey, the bird. L'interview du jour.